Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré puisque les salles sont obstinément fermées. Quel malheur à l'actualité DVD Blu-ray du cinéma avec Charlotte Lipinska de Vogue, Pierrot Pierre Murat de Télérama.fr, Eric Neuf du Figaro, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et surtout d'une heure en série tous les samedis soirs sur Inter, à la même heure que le masque. On parle ce soir de la dernière fanfare de John Ford, des tontons flingueurs de Georges Lautner, de Nous irons tous au paradis d'Yves Robert, du Lion et le vent de John Milius, de Charade de Stanley Donen et d'un coffret XXL consacré à Clint Eastwood. Dans le courrier de la semaine, eh bien, il est à peu près identique pour le sujet que je vais évoquer maintenant à celui de la semaine dernière, puisque Jérôme Autier nous est reconnaissant. Quel plaisir d'entendre Eric Neuf dire fort et clair ce que je pense de Jacques Demy, grand faiseur de navets, qui a donné la mesure de son pouvoir de nuisance avec Peau d'âne. Non mais déjà, je sais pas si vous avez écouté dimanche dernier, il y avait beaucoup de courriers qui allaient en faveur d'Eric. Merci aussi à Camille Nevers de ne pas céder aux diktats cinéphiliques selon lequel Kubrick serait un génie et tout ce qu'il fait un chef-d'œuvre. Et un petit regret aussi, ajoute Jérôme Autier, que personne n'ait mentionné Vincent D'Onofrio quand vous avez parlé de Full Metal Jacket, acteur assez à part et qu'on peut revoir dans la série New York Unité Spéciale. Continuer ainsi à faire un saut de passion, intelligence et de mauvaise foi, on en a besoin. Christelle a été déçue par le manque de David Fincher sur Netflix, dont on parlait la semaine dernière. La photo est sublime et les noirs et blancs magnifiques, mais d'émotion, point. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je n'ai pas réussi à m'intéresser à l'histoire de ce scénariste alcoolique, bien qu'ayant vu plusieurs fois Citizen Kane et connaissant la plupart des personnages évoqués dans Manque, j'ai eu l'impression, ajoute Christelle, d'un film réservé au Happy Few. C'est lent, brouillon et répétitif, forme brillante, fond terne. À propos du trou de Jacques Becker, Arnaud Sanquer nous écrit « Je ne gardais de ce film qu'un souvenir assez vague ». Et là, c'est le soin apporté à la psychologie des personnages, à leur humanité qui m'a frappé et touché. Une autre chose aussi m'a sauté aux yeux, la volonté de Becker de ne jamais être manichéen et de montrer que l'humanité se trouve aussi de l'autre côté des barreaux. Merci beaucoup, ajoute Denis Cadoret, d'avoir parlé du trou de Jacques Becker. Il s'agit pour moi d'un vrai classique et un des rares exemples de film à la fois d'auteur et grand public. Deux heures de bonheur absolu. Enfin, Évariste Blanchet d'Argenteuil remercie Eric Neuf d'avoir conseillé le livre « Dialogue entre amis » Jean-Louis Trintignant de Serge Cobert et Jean-Yves Catlan à La Martinière. Je viens de le savourer page après page. Pour moi, ce fut Noël avant l'heure. Et c'est vrai que j'ai découvert le livre après ton conseil, Eric, et c'est à la fois beau, mais aussi très émouvant sur ce grand acteur qu'est Jean-Louis Trintignant. Et on commence avec un film culte, en tout cas pour Xavier, dont nos auditeurs connaissent toutes les répliques. C'est Les Tontons Flingueurs, film de 63 de Georges Lautner, qu'on trouve dans le magnifique coffret publié par Gaumont et intitulé « 100 ans Michel Audiard », qui contient 21 films qui portent la marque du meilleur dialoguiste du cinéma français, de Un singe en hiver à Mélodie en sous-sol, et donc nos fameux Tontons Flingueurs. Adaptation délirante de Grisby or Not Grisby, le roman d'Albert Simenin avec les inoubliables, n'est-ce pas Xavier, Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, mais aussi Claude Rich, Robert Dalban, Jean Lefebvre, pour une guerre détruant dont je vous passe les épisodes, il y en a trop, et qui atteint son sommet dans la cuisine de la résidence de Louis le Mexicain, où la bande s'arsouille avec de l'alcool clandestin. Tiens, vous avez sorti le vitriol, dit l'un. On a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles, dit l'autre. Sans oublier le célèbre, faut reconnaître, c'est du brutal. Alors, Xavier, non, je sens bien que tu as du mal avec ce film.
Non, ce qui me fait rire, c'est que tu ris toi-même mais en relisant les répliques.
J'adore cette scène.
Donc, je me dis, bon, ben voilà quelqu'un que je n'arriverai pas à convaincre. Je l'ai revu, ou sans doute vu d'ailleurs, parce que je m'aperçois, on en discutait avec Sophie Avon, c'est un film que j'avais pratiquement jamais vu en entier.
à force d'être diffusé tout le temps.
T'avais pas mis le son en plus.
J'envoyais un petit bout de temps en temps, j'étais un peu affligé, je ne restais guère plus longtemps qu'un quart d'heure, 20 minutes, je connaissais les répliques par cœur, parce qu'il y a toujours dans les dîners, même mondains, quelqu'un comme Jérôme pour se gosser en répétant en boucle toutes les répliques du film. Bon, ben voilà. Donc, cette fois-ci, je me suis attelé à mon travail, j'ai regardé le film du début jusqu'à la fin, c'est la dernière fois de ma vie, parce que je suis désolé, il y a des moments savoureux. Moi, je dois avouer que quand on explique que la télé et l'auto ont tué le bordel, voilà, ça, sociologiquement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui passe. Il y a des dialogues qui me font moins rire que toi, mais dont je suis obligé de dire qu'ils sont assez savoureux. Mais en termes de scénario, c'est très mal construit et écrit. Il y a deux intrigues qui tentent d'être raccrochées par le scénario et par la mise en scène, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui est d'un côté cette jeune fille qui veut vivre ses 17 ans, sortir avec ses copains, épouser Claude Rich, et dont Lino Ventura devient l'oncle putatif.
La jeune fille de Louis le Mexicain qui se meurt.
Voilà, absolument. Et puis de l'autre côté, on a donc cette vague intrigue dont les tenants et les aboutissants qui sont données dès la première séquence, hein, puisque c'est le teuton flingueur, qui n'ont pas le tonton flingueur, hein, comme ça au moins j'ai flingué la fin du film, mais ça c'est pas très grave, parce que franchement, il faut avoir zéro neurone quand même pour ne pas s'enlever. Et pour le reste, ça se traîne, ça rame, c'est pas bien écrit, il y a des scènes interminables, celle de Beuvry n'en finit plus, et alors en termes de
mise en scène... C'est une seule scène.
Ah bah oui, mais elle fait 10 minutes sur 1h30, donc elle a déjà sa quantité quand même. Hein. Ah oui, mais et si je peux me permettre de terminer, vous lâcherez les lions, les chiens, tout ce que vous voulez après. En termes de mise en scène, Lautner découvre la double focale, c'est-à-dire ce principe de mise en scène qui permet d'avoir un premier plan net et un arrière-plan lointain, net. Et alors, c'est peu dire qu'il en abuse. Il y en a à peu près un toutes les 2 minutes. Ça ne sert plus à rien. Ça n'est même pas beau. C'est mis en scène, mais vraiment d'une manière très décontractée, sans aucune intelligence. Les scènes de Bourpif, elles sont très mal mises en scène.
Tu as dit l'essentiel, non?
Un pays autocrate, oui, ouais. Évidemment, bien sûr. Mais voilà, je suis désolé. Je ne recevrai certainement pas les courriers qu'Eric Neuf s'envoie à lui-même pour dire combien il est intelligent de dire du mal de Podane. Mais peut-être que je vais m'en écrire en disant bravo, Xavier,
Eric,
merci.
Est-ce que tu pourrais exploser façon puzzle Xavier
Le mériterait, oui, de boire cul sec leur alcool de contrebande.
Mais peut-être faut-il le boire avant de voir le film pour le supporter?
Non, parce que c'est vraiment un film qu'on connaît par cœur, on se glisse là-dedans comme dans des chaussons confortables et on est heureux d'être là. On est à la fois chez soi et il y a tout le temps des trucs nouveaux qu'on découvre. On a beau voir toutes les répliques là, on se dit mais oui, c'était là-dedans. L'intrigue n'a absolument aucune importance, c'est ça qui est bien. Et on voit à l'écran...
C'est nouveau,
mais oui, c'est une parodie, c'est de la poésie pure ce film. On voit que ces gars-là, tous devant et derrière la caméra, au bureau en train d'écrire Audiard, était là pour se faire plaisir, pour s'amuser. Ça sent vraiment la joie, ça sent l'aisance, oui, ça ne respire pas du tout l'effort.
Les limites de l'onanisme, c'est que ça ne te concerne pas, ça concerne ceux qui le pratiquent.
Mais non, ça se voit. Et quand on pense que ce film est sorti en 63, en pleine nouvelle vague, et je ne suis pas du tout d'accord avec toi, pour la première fois, j'ai trouvé que le film était pas mal filmé du tout. Pour un Lautner, parce que Lautner...
L'accident de voiture au début.
Non, il y a plein de choses.
C'est tout pour un Lautner.
Ouais, pour un Lautner, parce que Lautner n'a jamais été un styliste. Ah. Et là, ce serait signé d'un des gars de la Nouvelle Vague. On dit, oh, regardez ce polar très intelligent, astucieux, d'un humour fou. C'est bourré de répliques qu'on adore. On ne devrait jamais quitter Montauban. C'est ce que tu aurais dû faire, Xavier. Il y a des petits clins d'œil. La fille s'appelle Patricia. Comme Jean Seberg dans À bout de souffle, c'est peut-être pas... Ah, mais on sait pas, ça, mais oui.
Tu vas loin.
Il y a des instants cultes, Blier qui prend une gifle dès qu'il ouvre une porte, ça c'est merveilleux.
Sublimement mal mis en scène.
Mais non,
fois.
Pas du tout.
Et il y a
Jacques Duménil qui joue le Mexicain, comme quoi les acteurs...
Non, il n'y a pas de hors-champ, Charlotte. Ouais. Non.
Et qui sera le patriarche Duménil dans le feuilleton Au plaisir de Dieu, comme quoi on peut quitter Montauban pour aller chez Jean d'Ormesson.
Non mais Xavier, tu te désoles que le scénario soit éparpillé façon puzzle, mais on s'en fiche, une parodie et le principe de la parodie, là pour le coup...
Tout est au second degré, hein.
Mais c'est surtout...
Y compris le roman d'Albert Simonin.
Sauf l'alcool.
Oui, mais le principe de la parodie, c'est que là, ça permet de pousser les curseurs extrêmement loin d'une équation très simple, c'est avoir des bons mots dans la bouche de bons comédiens. Je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h sur ce film, et de ce point de vue-là...
Tu vas au point virgule, tu t'emmerdes pas à aller voir un film.
Mais non, mais de ce point de vue-là... avoue que c'est quand même un déluge, une avalanche, un festival, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule réplique qu'on n'ait pas envie de noter ou de ressortir
c'est
plus tard à ses amis.
C'est le cas d'un autre film tout à l'heure qui n'exclut pas la construction scénaristique, la beauté de l'interprétation et la mise en scène. Comme quoi, c'est
on va en parler, mais c'est autre chose. Il y en a un qui est aussi sur la tendresse, la mélancolie et la camaraderie. Et là, on est sur une parodie de Malfrat des années 50. Moi, je trouve qu'effectivement, par exemple, il y a peu de rôles féminins dans ce film, et quand Madame Madot, la tenancière du bordel, se désole qu'il n'y ait plus de main-d'œuvre pour parler du manque de ses filles, enfin, il y a plein de.
Strauss-Kahn disait matériel.
Extrêmement joli. Et puis, moi, je trouve qu'il y a quand même, en deuxième lecture, quelque chose sur le choc des générations, c'est-à-dire que la façon dont il traite les jeunes, le personnage de Claude Rich ou Patricia, un peu comme des jeunes écervelés qui écoutent du bebop et qu'on pourrait représenter comme la nouvelle vague, avec ces fameux tontons qui vont les foutre dehors à coups de pied au cul, c'est quand même assez réjouissant.
Pierrot ?
Non mais Xavier a tout à fait raison, c'est nul.
Oh, Pierre ! C'est nul. Mais Pierre !
Vous ne savez pas vous faire plaisir.
Ce sont les séquelles du rayon.
Je vous écoute.
Vous avez trop bu.
Vous avez mal digéré la dinde.
Je vous écoute depuis 5 minutes. Alors, il n'y a pas de scénario, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de mise en scène, mais c'est pas grave. Et donc il y a rien, mais c'est pas grave.
Alors moi,
il y a de la direction d'acteur.
Alors en plus, je précise que Lautner, c'est pas un nul. Il a fait des polars très bien, qui s'appelle Mort d'un pourri, par exemple, et qui est vraiment très très bien. Et il a fait surtout dans la parodie un film formidable avec la même équipe qui s'appelle Les Barbouzes et qui est beaucoup mieux fait.
Là, ils sont snobs.
Et quant à Audiard, j'ai une passion pour Michel Audiard. C'est un des grands crimes de toute la critique qui nous a précédé. Et quand je suis arrivé, c'est que Audiard était considéré comme un minable. Or, il a fait des dialogues absolument sublimes. Et c'est vrai que là, c'est pas mal aussi. Mais par rapport...
Parce qu'il y a Raoul
éparpillé façon puzzle, et puis la betterave, est-ce qu'il y a de la betterave ? Oui, il y en a aussi. Bon, c'est très bien. Mais quand on pense, par exemple, au dialogue qu'il a pu faire dans Le Cave se rebiffe, ou bien dans Le Président, qui est absolument génial, c'est un...
Mais pourquoi est-ce que tout cela serait incompatible, je comprends pas.
Et c'est parce que
au nom du président, tu
vous délirez sur un film qui est pas bon.
Bon, ce sont les Tontons Flingueurs, c'est Georges Lautner et c'est dans le coffret 100 ans Michel Audiard chez Gaumont. Il devait ressortir sur le grand écran le 18 décembre. En version restaurée, il faudra donc attendre quand, je ne sais pas. C'est Charade de Stanley Donen, film de 63. Même année, donc, qu'on retrouve en DVD chez Universal et en VOD sur l'excellent site que je ne cesse d'évoquer de la Cinéthèque. Régina Lampert, alias Reggie, c'est Audrey Byrne, en vacances à Megève, s'apprête à divorcer quand elle rencontre en haut des pistes Peter Joshua, qui est incarné par Cary Grant. Et de retour à Paris, elle découvre que son très bel appartement, il faut dire, qui donne, d'après ce que j'ai vu, qui donne sur le parc Monceau, a été vidé de ses meubles. Et elle apprend par l'inspecteur Grandpierre, joué par Jacques Marin, que son mari a été assassiné dans le train Paris-Bordeaux alors qu'il se préparait à partir pour l'Amérique du Sud. Mon mari, donc, ce grand inconnu, il avait 4 passeports. Différent à son nom, un passé trouble, d'après un agent de la CIA, 5 hommes dont son mari aurait volé des centaines de milliers de dollars pour financer la résistance française. Bon, j'en dis pas plus, c'est trop long, ni sur le butin qui a disparu, ni sur la vraie identité de ce Peter Joshua que Reggie a rencontré à Megève. Beaucoup de choses trappent, beaucoup de cadavres dans cette comédie policière, en tout cas beaucoup plus que dans la fameuse comédie musicale culte de Donen, Chantons sous la pluie, avec en prime une visite très américaine du métro parisien, du jardin des Champs-Élysées et de son guignol. Je crois que c'est le premier cinéaste américain à avoir filmé le guignol des Champs-Élysées et des arcades du Palais Royal après le tournage. Cary Grant a déclaré « Tout ce que je veux pour Noël », c'est un autre film avec Audrey Hepburn. Charade, Pierrot.
Ah ben voilà, ça c'est...
Arrête d'opposer les films.
Mais ça c'est un film.
On peut avoir du plaisir avec des films différents.
Permets, Jérôme, j'ai le droit de dire que j'adore Charade, qui est un film que je ne cesse de revoir, je le connais pratiquement par cœur. Il y a Audrey Hepburn, qui est absolument, c'est une de mes idoles, moi je la trouve absolument sublime, magnifique. Et en plus elle est filmée par Stanley Donen, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup parce qu'il sait exactement les effets qu'il provoque. Par exemple, il y a une séquence sur un bateau mouche où il y a Audrey Hepburn qui est là, il y a Cary Grant qui lui dit qu'il a du mal à résister à son charme, et après il y a un plan sur Audrey Hepburn, et Cary Grant la regarde et dit « Mais Et elle dit, mais qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il la regarde étrangement. Et il lui dit, votre visage, il est adorable. Et je suis absolument persuadé, dans la salle, on partage ça. C'est-à-dire qu'il filme la scène et il sait exactement que la réplique va correspondre au sentiment du spectateur. Donc ça, c'est un très grand metteur en scène. En plus, il filme Paris comme personne. Il prend des méchants burlesques, mais inquiétants en même temps, ce qui est absolument formidable. Et il faut voir le film, je pense, on peut voir faire deux soirées d'Onen, une avec Charade et une avec Arabesque, qui va tourner 2 ans plus tard, qui est le double inversé. C'est-à-dire que là, c'est Cary Grant qui ne fait que mentir, et ben dans Arabesque, 2 ans plus tard, ça sera Sophia Loren qui mentira.
On peut aussi voir, revoir avant Ariane avec Audrey Hepburn, oui, Billy Wilder, où il y a aussi, il y a Audrey Hepburn,
Charade, visitant Paris.
Attends, mais Charade et Arabesque, c'est vraiment un diptyque où les couples s'échangent. Là, c'est la femme qui croit tout le temps un menteur, et dans Arabesque, ce sera un crédule qui croira sans cesse une menteuse. Mais c'est d'une élégance et d'une sophistication.
C'est sûr qu'il n'y a pas d'alcool clandestin dans ce film. Ça, c'est sûr. Charlotte.
Ben oui, c'est vraiment un régal de bout en bout. Et ce que j'adore, c'est que Jérôme, tu as pitché le film, comme on dit, ce qui était assez long à raconter. Et pourtant, ce ne sont que les 10 premières minutes.
Oui, parce que c'est ça qui est fou. On rentre dans le détail des tribulations de cet argent censé être allé à la résidence française, là, on entre dans un polar qui n'en finit pas.
Mais du coup, tout va très très vite. C'est-à-dire qu'en moins de 10 minutes de film, elle veut divorcer, elle rencontre Cary Grant, pof, elle est veuve, elle se retrouve à la rue et après, toutes les aventures commencent. Je trouve que tout le film est à l'image aussi de l'énergie qui est insufflée par ce couple. Ils sont vifs, espiègles, alertes, il y a beaucoup de rebondissements jusqu'à la toute dernière minute du film, avec des scènes de pure comédie vraiment quasiment burlesque. Il y a notamment Cary Grant qui prend une douche tout habillé. La scène est absolument géniale. Et puis, il y a quand même aussi, en termes de plaisir des yeux, ce défilé de mode permanent des tenues Givenchy de Audrey Hepburn. Ce qui est génial, c'est qu'elle
est spécifiée au générique et au début et à la fin.
Mais son personnage, elle rentre de vacances de ski avec 2 petites valises. Elle a été dépouillée de tout. Et il n'empêche que dans 1h45 de film, elle a une robe différente avec le petit bibi assorti à chaque scène. Et on s'en fiche, c'est la magie du cinéma qui en plus se termine quand même dans les sous-sols de la Comédie Française, salle Richelieu.
Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pensé plutôt au théâtre du Palais Royal, moi je crois que c'est
plutôt... le théâtre du Palais Royal.
C'est le Palais Royal. Autant pour moi.
Dans le film, alors, peut-être que tu as raison sur la salle où ça a été filmé.
Je pense que c'est le théâtre du Palais Royal.
Pour moi aussi.
Eric.
Ah bah c'est un pur délice. Désolé d'être d'accord avec Xavier et Pierrot. Mais...
j'ai rien dit encore. Il faut avoir mauvais goût même au-delà de Charade.
Alors attention. Ah non, parce que c'est la grâce absolue, l'élégance parfaite et pas seulement à cause de Givenchy. Ce couple-là, quand on les voit, ils se revoient à Paris dans un grand appartement vide de la rive droite qui ressemble un peu à celui du dernier tango, mais il se passera pas exactement la même chose que chez Bertolucci. Heureusement, c'est un autre genre. Et le film est gracieux complètement. C'est bourré de chausse-trappe, d'élégance. On voit Paris filmé comme aucun étranger n'a su le faire, parce que c'est toujours ridicule quand ils plantent leur caméra dans
Une fois, un peu Billy Wilder dans Ariane.
Ouais, vaguement. Ouais. Ah, mais non, là, non, c'est 100 fois mieux. Là,
et il y a tous les clins d'œil aux autres films. Il y a Un Américain à Paris.
Un Américain à Paris, à Hitchcock. La poursuite sur les toits, toutes ces choses-là. On voit le talent de Stanley Donen. Si on a le supplice d'assister au remake de Demi, qui se passait sur la Côte d'Azur avec Nick Nolte, je crois, qui était une catastrophe absolue, comme quoi le talent, ça ne se partage pas.
Xavier, c'est une merveille absolue. Ah. J'ai envie de paraphraser Charlotte Lipinska. C'est une parodie, Charlotte. Alors, il peut y avoir un scénario, et c'est aussi bien. Il peut y avoir des bons comédiens, et c'est aussi bien.
Il peut y avoir une mise en scène, et c'est aussi bien.
C'est une merveille absolue, vous parliez.
Une comédie policière, c'est pas une parodie.
Oh, ça reste quand même un peu un pastiche du genre, bien Charlotte. Bah oui. Je vois bien que tu ne veux pas me donner raison et que tu ne veux pas... Mais je vois bien le mauvais foi à laquelle tu t'exerces. En termes de répliques cultes, mais vous rhabillez les tontons flingueurs, vous en faites un paquet.
Mais quel rapport ça? Je comprends pas là.
Vous n'aviez que cela tout à l'heure pour défendre les tontons flingueurs et les répliques cultes. Dans Charade, il y en a une toutes les 20 secondes. Je vais divorcer de qui? De Charles? Mais je n'ai qu'un mari. Déjà, moi, je trouve qu'en ouverture, c'est absolument délicieux. Elle invente du Shakespeare, Cary Grant lui dit, c'est pas du Shakespeare. Oui, mais ça m'amusait de le faire. C'est absolument divin. À un moment, Cary Grant passe par l'extérieur de l'hôtel où se situe l'intrigue. Il passe par les petits balcons. Il y a une femme qui pousse un cri et qui dit, oh mon Dieu! Dieu, ça fait la deuxième fois que quelqu'un me regarde par la fenêtre et s'en va. Et son mari lui dit, bah, pas de chance.
Pas de chance, Pamela.
Excusez-moi, mais ça, alors là, en revanche, je vous laisse tous vos betteraves, tous vos réplicules, tous vos grisbis, et je garde cette réplique absolument délicieuse, licencieuse. C'est vrai que Paris est très bien tourné. Il y a une petite erreur à la station Saint-Jacques.
Oui,
il y a pour la ligne 1. Bon, dommage.
Ouais, parce que là, c'est tourné au Palais Royal.
C'est du Paris rêvé. Allez.
C'est Paris, et moi, personnellement, je donnerais mais toute ma vie de cinéphile pour le travelling d'Audrey Hepburn et Walter Matthau qui sont au matin au hall, et ça se termine puisqu'elle bouffe tout le temps et qu'elle ne fait jamais de graisse, comme lui dit sa copine sur l'angoisse. Elle termine en commandant une gratinée à l'oignon, et jamais la gratinée n'a été aussi sexy
qui était, de l'histoire. J'ai dit vraiment le ventre de Paris, mais
et
c'est
Jacques
fini.
Marin, le personnage de Marin est tellement drôle, il a mis sa propre photo à la place de celle du président de la République dans son bureau. C'est un tout petit détail. Voilà, comme quoi on peut travailler la mise en
le
scène.
Talent,
Charade,
voilà.
Merci Adelaide Danen. Donc, vous le verrez en salle, j'espère, en version restaurée en janvier, février, mars. On ne
mais
sait
vous
plus.
Le verrez.
Mais on peut le voir, encore une fois, sur le site de la Cinéthèque et en DVD chez Universal. La dernière fanfare, film de 58 de John Ford, qui sort en combo DVD Blu-ray chez Sidonis, avec en prime et notamment un documentaire très intéressant sur John Ford, réalisé par Lindsay Anderson avec Spencer Tracy dans le rôle et la fonction de Frank Skeffington, un vieux maire démocrate d'une petite ville américaine qui travaille durement à sa réélection. Et il incarne évidemment une époque en passe, donc en 58, d'être totalement révolue, où la politique était encore de proximité, de terrain, où les retraites au flambeau, les défilés de la fanfare suivis des majorettes étaient plus importantes que la télévision, et où un maire pouvait recevoir, c'est une des scènes du film assez incroyable, à son domicile, ses administrés, le matin, l'un après l'autre. Franck Filou, mais pas ripou, attention, sent bien que cette campagne risque d'être sa dernière. Cet homme veuf d'origine irlandaise, très important dans le film, grand défenseur des déshérités, affronte un jeune rival idiot, tellement idiot que parfois j'ai trouvé ça un peu manichéen, c'est dommage, mais qui a le soutien des banques, du journal local, du clergé. Avec ce film, et à 64 ans, donc, John Ford ajoute un nouveau chapitre à son portrait de l'Amérique, et Spencer Tracy, très Jean Gabin à l'américaine, je l'ai trouvé particulièrement émouvant. Charlotte.
Il y a le John Ford des grands espaces et le John Ford des salons et des bureaux. Clairement,
ça ne t'a pas
ce film, non, ça ne m'a pas échappé. clairement, ce film appartient à cette deuxième catégorie. Et moi, j'étais assez troublée parce que ce personnage de Skeffington, j'arrive pas à savoir s'il faut y voir un double de Tracy ou un double de Ford lui-même, qui est quand même plutôt un peu sur la fin de sa carrière. On sait qu'il était un peu amer, qu'il regrettait un peu la fin du grand Hollywood. On est à cette bascule-là, le film date de 58. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher de voir le film, enfin de le regarder, hein, à vrai dire, je ne le connaissais pas, mais comme un miroir que Ford tendait à sa propre carrière avec Tracy, qui était, on le sait déjà, assez malade à cette époque-là. Et donc, il y a une nostalgie, je trouve, qui emprunte le film. À un moment, ce personnage,
il y a une mélancolie même.
Oui, revient sur les lieux de son enfance et montre à son neveu là où il est né, là où il a grandi, dans des quartiers populaires de cette ville. Et il y a tout d'un coup une grande nostalgie.
Il faut dire que le neveu, c'est un journaliste qu'il va enrôler pour accompagner cette dernière cette dernière campagne.
Qui est effectivement un adulte. Et si dans toute la première partie du film, qui se passe donc de jour, qui est quand même assez nerveuse, énergique, parce qu'il mène la campagne, et comme tu le disais, il reçoit les administrés, il se bat pour eux, il se bouge, il est quand même accro au pouvoir, hein, cet homme-là. Et puis, une scène de bascule incroyable, cette soirée électorale, où de l'énergie, on va passer à l'abattement, à la déprime, jusqu'à un travelling final que je trouve absolument magnifique. Il y en a assez peu, en fait.
Dans le jardin, dans les rues, dans le jardin.
C'est ça. Beau, et tout est dit par le mouvement de la caméra. Alors là, quand on parle de mise en scène, on a cet homme seul qui va remonter une rue la nuit en sens inverse de la foule qui, elle, passe de gauche à droite. Et tout est dit dans ce plan-là. Donc je trouve ça assez beau. Après, dans la globalité, le film a semblé quand même un petit peu long, quand même, en le voyant aujourd'hui.
Il fait deux heures. En même temps, je trouve que c'est un bon portrait de ce qu'est l'évolution de la politique, pas simplement aux États-Unis, mais dans le monde entier.
Oui, c'est la disparition d'un monde politique à l'ancienne, entre guillemets, versus la télévision, les nouveaux médias, incarnés par son rival, qui effectivement est quand même très caricatural dans le film.
Éric.
L'absence de Monument de Valley, elle surprend un peu au début, et ça se passe à Boston apparemment, en Nouvelle-Angleterre, et c'est un film que Ford a tourné à 64 ans, Et on pensait tous que c'était un très très vieux monsieur, parce que ça doit être son 512e film. Et on sent ça, cette mélancolie dans le film, que la montée de la télévision doit le tracasser, que le fait qu'il puisse plus être considéré comme un grand metteur en scène l'empêche de dormir. Et il y a Spencer Tracy. C'est vraiment un documentaire sur Spencer Tracy, qui est l'acteur. À un moment donné, il lève la main pour dire « je le jure », enfin il dit même pas « je le jure », et rien qu'à le voir, on sait que ce type-là ne ment pas. À ce moment-là, il y a assez peu d'acteurs qui peuvent jouer ça, et c'est une espèce de passage de témoin, de basculement, comme disait Charlotte, la scène où il remonte la foule qui soutient son concurrent, c'est un peu... Giscard, dans une partie de campagne, qui allait tout seul en 74 à son QG en voiture.
Enfin, en plus émouvant, hein.
En plus émouvant, oui, mais.
Chez Tracy.
C'est là que c'est aussi là que les périodes politiques ont changé. Et on voit qu'un crétin soutenu par les banques peut gagner des élections. Et Tracy est vraiment quelqu'un qui porte à l'ancienne, comme est tout le film d'ailleurs. On voit que c'est un film où John Ford nous dit qu'avons-nous fait de ce pays, que sont devenus les États-Unis.
Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon portrait aussi.
Ouais, et que va être le
un bon chapitre de son portrait général de l'Amérique.
Le cinéma
d'autant
aussi,
que
peut-être.
La famille et la communauté traversent toute son œuvre. Bah, c'est très présent dans ce film-là.
C'est l'Irlandais qui voit qu'ils ne seront plus tellement la majorité. Là.
Xavier,
on peut voir même quelque chose de prémonitoire dans le film. C'est-à-dire qu'un imbécile bien mis en scène par la télévision et bien accompagné par l'argent peut devenir président. Il y a, vous l'avez dit, une mélancolie. C'est quand même un film sur la lutte des classes qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il y a un moment, Spencer Tracy raconte d'où il vient, d'où vient sa communauté aussi d'esprit, de copains. Il dit, ben machin est né là aussi, et puis on était vraiment un tout petit quartier de pauvres. Ils ont lutté quand même sur le terrain, c'est aussi la fin.
Cette scène où il rentre dans le club... où il y a tous les notables,
mais voilà.
Y compris d'ailleurs ecclésiastiques,
avec
le club fermé,
oui.
Où il rentre presque de force, alors qu'il est le maire de la ville, qui est une scène magnifique, je trouve.
Avec des dialogues très très drôles, puisqu'on a l'impression qu'il dit, mais il n'y a que des JB ici, il n'y a que des potences, comme si l'Amérique s'était construite comme ça, sur son pouvoir hégémonique. Non, c'est quand même un film aussi sur la fin, d'une politique de proximité, une politique de connaissance de l'autre, au profit ou au mépris, je ne sais pas, d'une politique... télévisuel, d'une politique de spectacle. Effectivement, le candidat adversaire est un tout petit peu bené. Ça donne une scène de comédie qui est assez savoureuse quand même quand il est tourné par la télévision locale.
Avec sa famille.
Avec sa famille.
Ouais, le chien qui est sur le fauteuil.
Très, 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 très drôle.
Le
avec,
chien loué.
Lui, il faut déplacer des choses. L'épouse qui ne trouve jamais où est le texte qu'elle doit lire et qui cherche comme ça un peu à garder. Non, il y a aussi beaucoup d'humour. Il y a de la mélancolie, il y a de la lucidité. Moi, je trouve qu'il y a un vrai portrait. Et puis, il y a un personnage, moi, que j'aime beaucoup. On a parlé du neveu. Il y a le fils aussi, dilettante, qui traverse l'écran, qui ne s'arrête jamais, qui semble indifférent.
Qui est un peu exaspérant.
Ouais, mais ça dit quelque chose.
Jusqu'à sa crise de larmes finale, que je ne raconterai pas.
Je ne raconterai pas, mais ça explique pourquoi aussi Spencer Tracy, le personnage, en tout cas, va chercher le neveu comme fils putatif et comme héritier aussi de cette mémoire-là. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'assez déchirant sur le fait de ne pas avoir réussi non plus à élever son enfant.
Pierrot.
Oui, c'est un beau film nostalgique, en effet, puisque il est plutôt jeune, John Ford, et puis il fait appel à Spencer Tracy, qui ne l'est pas non plus, donc en effet, comme dit Charlotte, il y a un double dans tout ça, enfin c'est son double, et puis il fait venir, je crois, tous ses copains comédiens second rôle, il y a Jane Darwell, par exemple, qui joue une semi-cinglée, mais en même temps extrêmement sympathique, enfin il y a ça. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que finalement le personnage de Spencer Tracy, Charlotte, tu l'as dit, c'est pas un ange. C'est quelqu'un qui est obsédé par la carrière. Ben, bien sûr, il a monté les échelons de la société pour devenir ce qu'il est, bien sûr, mais en même temps, il ne peut pas faire autre chose. Je veux dire, sa défaite le foudroie. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Il y a juste pratiquement le cardinal qui, curieusement, est un des sages de l'histoire, qui a cette...
Qui est en même temps un peu ambigu.
Complètement.
Parce qu'il passe d'un camp à un autre.
Il passe d'un camp à un autre, mais justement parce qu'il comprend que l'autre sera pire, le jeune, et il a cette formule que peut-être qu'on devrait aussi quelquefois méditer un peu partout. Je préfère un voyou séducteur à un parfait crétin.
Et ben, qui n'est pas une phrase de Michel Audiard, je le précise.
Voilà. mais ça pourrait presque, et je pense que c'est ça que John Ford veut nous dire, c'est que quelquefois, oui, eh ben, peut-être qu'un voyou, mais un voyou généreux, ben, c'est peut-être pas si mal que ça.
La dernière fanfare, John Ford, film de 58, disponible en combo DVD Blu-ray chez Sidonis. On parlait la semaine dernière de Sean Connery qui porte la couronne au Kafiristan dans L'homme qui voulut être roi de John Huston. Le revoici dans Le lion et le vent de l'oublié John Milius, un film de 75. qui connaît une nouvelle jeunesse DVD Blu-ray grâce aux éditions Rimini. Il porte ici le turban du chef berbère El Rassouli, le magnifique, dans le Maroc de 1904, que se disputent alors la France, l'Allemagne et l'Empire britannique. Avec ses cavaliers, Rassouli enlève dans le quartier européen de Tanger la belle Eden Perdicaris, une jeune américaine jouée par Candice Bergen, ainsi que ses deux enfants. La scène est assez spectaculaire. J'ai jamais vu d'ailleurs des chevaux monter aussi haut dans des maisons.
J'ai pensé à toi, Jérôme.
Ah non, mais c'est impressionnant. Franchement, je sais ce que c'est que de faire monter des chevaux, des escaliers à un cheval. Là, c'est impressionnant. Bref, c'est la manière qu'a trouvé Rassouli pour s'opposer au jeune sultan qui complote avec les Occidentaux et à son oncle, le pacha de Tanger. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, le président Roosevelt, qui est joué par Brian Kess, qui vise la réélection, décide d'utiliser cette affaire pour montrer la puissance de son pays. Alors l'amusant, c'est qu'évidemment le secrétaire d'État John Hay est joué par John Huston lui-même. Bref, l'affrontement entre deux hommes, Rassouli et Roosevelt, qui ne se rencontrent jamais. Alors le plus drôle, c'est que ce film très marocain était tourné quand même totalement en Espagne. Pierre.
C'est un film vraiment, alors, hollywoodien, mais hollywoodien à l'ancienne.
Avec un nombre de figurants le numérique n'arriverait pas à rattraper.
C'est un peu ce que j'aime, ce qu'aime John Milius quand il était réalisateur. C'est-à-dire que, par exemple, le premier, il y a un travelling qui arrive sur Sean Connery, assis là, qui se retourne et qui nous regarde de ses yeux sombres. Eh ben, c'est exactement comme ça que le cinéma muet ont filmé Rudolph Valentino dans Le Fils du Sheikh. C'est-à-dire que c'est complètement artificiel. On pouvait pas croire à Sean Connery en sultan. Là, maintenant, c'est pratiquement insupportable parce qu'on peut pas croire. Enfin, c'est exactement le cinéma hollywoodien qui se faisait et que tout le monde aime dans des souvenirs d'adolescence. Alors, ce qui est très curieux, c'est que John Milius est très célèbre parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont connu. Il a écrit des scénarios.
Sauf qu'il a été complètement oublié.
Oui, mais il a donné des
scénarios. Le barbare.
Non, mais tu poses la question qui est John Milius aujourd'hui.
Il a écrit des scénarios, mais en plus, bon, mais il y a des fans. Il y a des fans absolus qui rappellent qu'il était un macho, qu'il aimait les armes,
Il disait, j'élève mes fils pour en faire des Gengis Khan dans les années 80.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un type assez bizarre. Et ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que ses admirateurs qui voient le film en disant, on retrouve dans Le Lion et le Vent, c'est l'obsession des armes, l'obsession du machisme, se rendent compte que c'est un film, pour moi, qui est assez ironique. Parce que le Sean Connery en question, il commence par tomber de cheval.
Quand il est pendu par les pieds.
Voilà, c'est un, mais en même temps, c'est drôle, un grand enfant, etc. Et le président des États-Unis, qui en effet aime la chasse et qui veut se comparer à un grizzly, il est parfaitement ridicule. Donc, je voudrais savoir, est-ce que John Milius était conscient qu'il faisait une parodie, un film ironique, et à ce moment-là, c'est un film relativement réussi, ou bien il voulait faire un film très sérieux, et à ce moment-là, c'est totalement raté.
Parodie, encore une fois, très spectaculaire parfois.
Oui, c'est très spectaculaire.
Xavier. Pierre a raison, si on accepte ce second degré, ou en tout cas si on le recherche et si on le trouve, d'abord on sera extrêmement gâté, hein. Et il y a un petit côté cinéma muet, tu as raison, il y a un côté cinéma Bollywood aussi, avec une emphase, avec une exagération. Tous les cascadeurs tombent devant la caméra systématiquement. Il n'y a pas un cheval qui va s'y prendre un tout petit peu plus lointainement. Les cascades sont hyper répétées.
Ils tombent beaucoup, à mon avis. Il y a eu quand même quelques accidents.
Il y a eu certainement quelques accidents.
C'est assez violent.
Il y a un cheval qui est à rien du tout au niveau du sabot.
J'ai souffert un peu.
Les cascadeurs. Effectivement, on tombe en poussant des cris. Comme ça, on se jette dans le sable. Et en même temps, Candice Bergen n'est pas très bonne comédienne, blonde comme ça, avec des airs un peu effarés. Il y a le plaisir du spectaculaire, des grandes cavalcades, des attaques avec des militaires, avec des beaux hommes en turban, avec une femme comme ça qui veut qu'on la sauve et puis qui finalement va être atteinte un peu du syndrome de Stockholm. C'est adapté d'une histoire vraie d'ailleurs, mais que je crois que Milius a quand même bien retravaillé.
C'était pas une femme surtout.
T'as aussi le défilé à Tanger.
Oui, en plus c'était pas une femme.
T'as aussi le défilé à Tanger des soldats américains. Là on se croit chez John Ford.
Mais
avec le drapeau.
Ouais.
C'est du cinéma too much, mais de temps en temps ça fait un bien fou quand même. En plus la copie est assez magnifique.
Oui.
De retrouver là, en termes de lumière, en termes de contraste. Voilà, quoi.
Éric ?
C'est un film impossible à faire aujourd'hui pour tout un tas de raisons.
Tu le feras en numérique.
Oui, mais ce serait beaucoup moins bien. Et puis, Sean Connery n'aurait pas le droit de jouer un sultan marocain. Il faudrait prendre un local. Il y aurait un tas de complications comme ça. Mais vous oubliez une chose, c'est que c'est sûrement un film vu par l'enfant qui a été kidnappé. Ce qui explique la fascination et le côté un peu...
Il y a un garçon et une fille.
Oui, mais c'est le garçon qui regarde, qui est fasciné par ce kidnappeur, par les mœurs de cette tribu qui, pour lui, est complètement étrangère. Mais le film est magnifique, très très beau visuellement, riche, assez gonflé de raconter que le président des États-Unis était une espèce de gros abruti qui voulait absolument qu'on lui offre un ours empaillé. Et puis, il y a le couple Sean Connery qui réussit à ne pas être ridicule avec son turban, et Candice Bergen, qui était au sommet de sa beauté. Et puis, c'est Hollywood, ça. Même au milieu du désert, elle se réveille, elle a l'air de sortir de chez Carita.
Ce désert, c'est désert espagnol. Hein.
Oui. Peu importe. Mais, ça, le cinéma, c'est donnez-nous de belles invraisemblances aussi.
Charlotte.
Et je trouve que c'est un drôle de film réalisé quand même par un drôle de bonhomme. ce milieu, ce qu'on connaît effectivement pour Conan le Barbare, ou en tant que co-scénariste, surtout Apocalypse Now et d'autres films. Il se décrit lui-même comme un anarchiste zen. On sait qu'il est très provocateur, anticonformiste, fasciné par les armes. Et là, je trouve que dans le film, il y a quand même une sorte d'exaltation de la force. Alors, c'est la force physique des hommes, mais aussi des chevaux, et de la violence au nom d'une cause. Alors, quel parti prend-il? Ça reste très ambigu, parce que Milius adorait Roosevelt, paraît-il. Il a même voulu faire des films sur lui et tout ça, un grand Roosevelt convaincu. Et là, la façon dont il nous le montre, ça, effectivement, ça ne saute pas aux yeux. Il y a beaucoup d'ironie, ce qui me fait pencher plutôt dans la balance de l'hypothèse d'une parodie sur ce film-là. Mais néanmoins, je trouve que quand même, à la fin, il nous montre aussi l'absurdité de l'usage de la force. C'est-à-dire que quand, avec les troupes américaines qui arrivent, ce fameux usage du gros bâton, et on va leur montrer qui c'est Raoul, hein, parce que c'est quand même un peu de il s'agit. Je leur place. Donc je sais pas, je trouve ça très curieux, c'est très beau visuellement, vous l'avez dit, ça pète de couleurs, on adore voir ça. Il n'y a quand même pas tant d'action que ça. Je trouve que sur la durée du film, il y a cette scène d'action formidable au début et à la fin, mais c'est long aussi, hein, ça parle beaucoup, beaucoup. Et puis sinon, la moustache de Sean Connery, elle est quand même... Il y a des petites bouclettes là, merveilleuses, on imagine toutes les coiffeuse derrière, qui ont mis des bigoudis. Oui, une barbe, mais avec la moustache kerbique, quoi. Enfin, il est parfait.
Le lion et le vent, c'est John Milius avec Sean Connery, film de 75, qu'on trouve réédité, très bien réédité, chez Rimini, autre coffret de la Gaumont pour un autre centenaire, celui d'Yves Robert, né en 1920 à Saumur, avec 21 films de la Guerre des Boutons au Grand Blond, avec une chaussure noire. Nous irons tous au paradis, donc, se trouve dans ce coffret. C'est la suite d'Un éléphant, ça trompe énormément, film de 1977, avec le même scénariste, Jean-Loup Dabadie, le même compositeur, Vladimir Cosma, et la même bande de comédiens qu'on connaît tous par cœur, là encore, pardon Xavier. Dans Un éléphant, c'était Étienne, donc Jean Rochefort, qui voulait tromper Marthe, c'est Daniel Delorme, avec Annie Dupéret. Dans Le paradis, c'est Étienne qui, après être tombé sur une photo de Marthe embrassant un inconnu vêtu d'une veste à carreaux, est convaincu qu'elle le trompe. Parmi les petits événements du film, l'acquisition par nos quatre loustiques, Claude Brasseur, Jean Rochefort, Victor Lanoux et Guy Bedos, d'une maison à la campagne, avec cour de tennis, dont ils vont découvrir après une grève aérienne qu'elle est située au bord d'une piste d'aéroport. C'est aussi la mort de l'épuisante Mouchy, Marthe Villalonga, qui plonge son fils Simon Sebedos dans le désespoir. C'est le mariage, ou le prétendu mariage de Daniel, Claude Brasseur, qui est homosexuel et qui doit épouser sa patronne d'Agemur, que tu as connu, je parle de cette comédienne, hein, je crois, Xavier. Signalons enfin hilarant dans un petit rôle aux côtés de Daniel Delorme, notre ami de France Inter, Christophe Bourseiller, qui est peut-être dans les rôles qu'il a eu à son meilleur dans ce « Nous irons tous au paradis ». Éric.
Ça fait partie de notre histoire, hein, et c'est la culture, ça, de « Nous irons tous au paradis ». C'est un peu à un éléphant, ce qu'est le Vicomte de Bragelonne aux Trois Mousquetaires, parce que le film est très drôle, mais il y a aussi une gravité, une grande mélancolie dedans, parce que c'est une façon de voir ces gens-là vieillir, ces quatre copains. Et ça, c'est grâce à Dabadie, forcément, qui était quand même un génie. Hein. Ce qu'il a fait dans les années 70, Dabadie, c'est absolument inégalable. Mais le film est très, très mélancolique. Hein. Il y a des parallèles avec Vincent François Paulet et les autres qui avaient écrit Dabadie 2 ou 3 ans auparavant, avec La Maison de Campagne, avec la dispute entre Brasseur et Victor Lanoux qui fait pendant à La Colère de Piccoli contre Yves Montand. Et le match de basket avec le match de foot au début de Vincent, François Paul et les autres. Et le film est c'est un peu une façon de montrer comment ces quadragénaires s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils ne seront plus jamais jeunes et ils ne sauront jamais à quel moment ça a basculé. Et ça, c'est très très beau parce que le film fait, grâce à Dabadi, comme un bruit de feuilles mortes au milieu des rigolades, quelque chose de triste. Et ils ont bien fait de ne pas tourner un troisième numéro. Et j'ai un seul regret, c'est qu'il n'y ait pas un petit clin d'œil à Annie Dupéré qu'on aurait pu revoir comme ça pour en hommage au film précédent. Mais le film est très très bien, a été depuis beaucoup imité, mais jamais égalé, comme on dit, des sandwichs de la SNCF.
Enfin, le moment quand même de bascule où on voit qu'ils ont vieilli et qu'ils ne seront plus jeunes, c'est quand même quand ils entendent le matin les avions passer au-dessus
C'est peut-être aussi le déjeuner au bord de la mer,
aussi.
Une bourrasque.
Pierre.
Bah, c'est très, très, très bien, bien sûr.
Et c'est. Pierre, tu aimes ça, toi?
Ah, beaucoup.
Ça, alors?
Bah, c'est pas parce que j'aime pas un navet que je suis obligé de pas aimer tous les autres. Enfin, tous les autres bons films, je veux dire. Non, celui-là est très, très bien. Et puis, en plus, Yves Robert, c'est un bon cinéaste. Et je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est rare parce que la suite est mieux que le premier épisode. J'aime beaucoup Un éléphant, ça trompe énormément. Mais celui-là, je trouve mieux écrit encore. Je trouve que et tu as tout à fait raison, Eric, ce qui est formidable, c'est à la fois le burlesque. Par exemple, il y a Jean Rochefort, qui est visiblement avec la musique là de Cosma, qui imite un peu Henri Mancini, et avec son chapeau, son impair, c'est un petit hommage à Black Edwards, c'est l'inspecteur Clouseau, bien sûr. Donc il y a vraiment une partie burlesque, et en même temps, cette gravité qui est là, et qui est évidemment la mort de Marthe Villalonga, avec les réactions de Guy Bedos, et puis le mariage, les rapports de Claude Brasseur avec Gabi Silvia, ils veulent se marier pour donner encore une apparence à leur vie. Et je trouve que cette gravité-là et cette fantaisie-là...
Non, c'est vrai qu'il y a une émotion qu'il n'y a pas dans Un éléphant. Ça, c'est vrai que...
Mais je trouve que c'est mieux écrit. Et les gags que tu as décrits avec le tennis, enfin, c'est historique, quoi. C'est formidable.
Bah oui, c'est une merveille et effectivement, on peut aimer Audiard et Jean-Loup Dabadi que je tiens pour certainement l'un des plus grands dialoguistes.
C'est dommage, mais
parce qu'il y a de la poésie, parce qu'il y a de la tendresse, parce que dans ce portrait d'hommes qui mûrissent pas vraiment, qui restent un peu maladroits, qui restent lourdeaux, c'est finalement ils se font mener presque par le bout du nez par les femmes. Les femmes ont vraiment le beau
surtout
rôle.
Surtout par maman Mouchy. Hein.
Oui, non, mais elles ont le beau rôle, moi, je trouve, dans ces films-là, même si ça, c'est évidemment focalisé sur les rôles masculins. Et puis, chose très difficile à faire au cinéma, c'est un film choral où tout le monde est aussi bien servi, c'est-à-dire qu'ils existent tous, même si le fil rouge serait plutôt l'enquête du jaloux Jean Rochefort. Tous les autres sont là, ils existent, ils ont chacun du beefsteak, quoi, on va dire, pour les acteurs.
Ah oui, décidément, t'es très Audiard ce soir. Hein.
Oui, non, je sais
ils
pas.
Ont chacun
ils,
du beefsteak.
Non, mais ils ont à manger. Je veux dire, ils ont à manger, comme ils sont bien servis par des dialogues merveilleux. Et puis, quand même, c'est quand même rigolo de voir que l'adultère est vu comme la sauvegarde possible d'un couple de longue durée, ce qui est quand même pas rien. Je sais pas,
mais
on peut l'envisager en
très
tout cas.
Clairement, bien sûr.
Mais ouais, non, moi je trouve que c'est délicieux et c'est là aussi un régal de bout en bout.
Xavier,
c'est formidable parce que c'est une suite qui n'est pas une suite. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour retrouver et reproduire le succès d'Un éléphant, ça trompe énormément.
Mais c'est pas les bronzés. Ça, c'est
non,
clair.
Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un vrai propos, et Charlotte l'a très bien dit, c'est qu'il y a une mutation sociétale qui est réel, les femmes sont en train de prendre le pouvoir à différents niveaux, de différentes façons. Gabi Silvia, cette patronne de la boîte où Claude Brasseur travaille, et qui passe en faire penser un peu à notre directrice, moi je trouve. Elle a un petit air de Laurence Bloch.
Tu trouves qu'elle ressemble à
Laurence Bloch? Malicieusement autoritaire, comme ça, voilà. Bien persévérante dans les
couloirs. Il fait seulement dans mariage.
Cher Laurence, bonsoir, délicieusement autoritaire.
Mais oui, mais je trouve que c'est une vraie qualité. Daniel Delorme qui va très bien se jouer de
très
la fantasmagorie de son mari qui effectivement se transforme en détective un peu malhabile, qu'elle va réussir à contourner, à retourner comme ça. Chacun a une partition différente.
Et toutes les compagnes de Victor Lanoue.
Voilà, la compagne de Victor Lanoue.
Chacun a sa partition. C'est
qui prend un mec jeune qui lui plaît.
Polyphonie extrêmement harmonisée grâce à la mise en scène, effectivement, à la direction d'acteur de Robert. Il y a des choses magnifiques comme cette caresse suspendue que Daniel Delorme va adresser à Brasseur au moment où il lui arrive quelque chose d'un peu mauvais et qu'il interrompt comme ça. Il y a une nervosité. Le cadre est absolument parfait et magnifique. Et puis, en termes de dialogue, alors c'est pas Audiard, bien sûr, mais quand Guy Bedos passe dans la salle d'examen avec sa maîtresse et qu'il fait, elle a rien, mais ça va être long. Ben, moi, je suis désolé, mais je trouve ça absolument, mais magnifique. Réplique, en plus, il adresse au mari, quand même, qui, pour une fois, est venu avec son épouse. Et la mutation, le pouvoir que sont en train de prendre les femmes, la manière dont elles sont en train de changer la société, et les mecs qui ne voient rien, et ben, c'est la bourrasque, effectivement, qui les emporte à un moment quand ils déjeunent dehors. Nous. Et ça finit de tendresse.
Et la voix off,
nous irons tous au paradis, d'Yves Robert, réédité dans le coffret 100 ans d'Yves Robert. À la Gaumont, très peu de temps malheureusement, je pensais qu'on en aurait davantage, pour évoquer cet énorme, et il faut l'avouer, très coûteux, coffret en édition limitée consacrée à Clint Eastwood chez Warner. Il contient 63 films, 54 en Blu-ray, 9 en DVD, de l'acteur et du réalisateur, depuis Escadrille Lafayette, bien oublié, jusqu'au cas Richard Jewell, de Le Bon, La Brute et Le Truand, à Sur la route de Madison, c'est-à-dire 60 ans de cinéma devant et derrière la caméra, avec forcément quelques navets, comme dirait Pierre, et beaucoup de grands films, un mélange d'ailleurs dosé de western, de polar, de mélodrame, de biopic, ou encore deux films de guerre en bonus, trois documentaires sur le King, et un livret signé Samuel Blumenfeld. Alors je vous propose simplement, pour terminer cette émission, de choisir chacun un de ces 63 films et de me dire pourquoi. On va commencer avec Xavier.
Ça n'a pas été difficile à choisir, je crois que j'en ai deux ou trois grands maximum.
Sur 63
Ah oui, moi vraiment, j'échappe complètement à Clint Eastwood. Le seul talent que je reconnais à Clint Eastwood, c'est qu'il arrive à faire, avec le même film, croire qu'il est de gauche aux Européens et qu'il est de droite avec les Américains. Donc là, il y a un vrai talent, hein, c'est quand même très très clair. Le mec n'a absolument aucun courage, contrairement à ce qu'il dit et ce qu'il prétend. Il y a un film que j'aime beaucoup, aucun courage idéologique pour éclaircir mon propos, mais le seul film que j'aime beaucoup, c'est Les Lettres d'Iwo Jiwa, qui est le pendant de la mémoire de
qui
nos...
Qui était en deux volets.
C'est le, voilà, c'est le pendant. C'est le deuxième pères. Volet de la mémoire de nos pères, de nos frères, je ne sais plus, j'ai un doute.
De ce fait historique, tout à fait.
De nos pères, hein, c'est ça. Qui était très mauvais, le pendant américain, qui était très patriotique, qui ne remettait rien en question, deux doigts sur la couture, qui était vraiment le pire du Clint Eastwood. Et subitement, quand il va tourner de l'autre côté le camp japonais, la détresse des Japonais devant la Deuxième Guerre mondiale, il se passe quelque chose vraiment d'absolument bouleversant et de magnifique sur la manière de filmer, entre guillemets, l'ennemi, sans le caricaturer, sans le condamner. J'ai eu un petit espoir. Je me dis, ça y est, Clint Eastwood vieillit, il vieillit bien. Puis non, derrière, il a fait des navets absolument effroyables.
Et donc tu repousses quand même le coffret, toi, carrément.
Ah ben ouais. Non, mais on ne me convaincra pas, je ne convaincrai pas ceux qui adorent Clint Eastwood. Tant mieux, le coffret existe. Mais alors, personnellement, je ne mettrai pas un centime d'euro là-dedans.
Pierre,
Le coffret est magnifique. Et moi, je ne suis pas un inconditionnel de Clint Eastwood. Mais contrairement à Xavier, quand même, je trouve qu'il a... Alors moi, j'ai choisi très rapidement deux films. Un qui s'appelle Honky Tonk Man, qui date de 82, qui est l'histoire d'un chanteur de blues et qui va provoquer l'éducation sentimentale, sexuelle de son neveu. Et il y a vraiment une tendresse dans le parcours de ce type qui va mourir. Et il y a un lyrisme, un souci des petites gens qui rappelle vraiment le cinéma de John Ford. C'est un film peu connu d'Eastwood, qui date de 82, Honky Tonk Man, et c'est une pure merveille. Et puis alors, très rapidement, un petit polar qui s'appelle La Corde Raide, qu'il n'a pas réalisé lui, mais on le sent vraiment au pouvoir, de Richard Tuggle, uniquement parce que c'est l'histoire classique d'un serial killer. Mais là, pour une fois, Clint Eastwood, il est filmé comme partageant presque les perversions du tueur qu'il poursuit. Et il y a vraiment une ambiguïté qui est pas souvent exploitée chez lui, et c'est vraiment deux films très importants, je trouve.
Charlotte.
Alors moi, c'est Bird de 88, donc sur Charlie Parker incarné par Forest Whitaker. Je trouve que le film a un petit peu vieilli, je l'ai revu là récemment, mais il reste quand même extrêmement intéressant. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que je me suis demandé pourquoi Clint Eastwood Clint Eastwood qui boit pas, qui fume pas, qui fait de la méditation transcendantale depuis 40 ans et qui a un rythme de vie extrêmement sain, s'intéresse à ce musicien dont on sait qu'il avait énormément de problèmes de drogue, d'alcool, enfin, qui a causé sa perte. Et je me dis, ben, c'est l'amour du jazz. Et l'amour du jazz transparaît vraiment, je trouve, dans ce film, parce qu'il laisse le jazz s'exprimer. Il y a des très longues plages musicales. D'habitude, dans les films sur le jazz, on fait les deux derniers accords, et puis hop, on passe au bar et on discute ensemble. Là, non, il l'aime et il respecte profondément la musique. Et je trouve ça assez touchant. Et par ailleurs, toute la narration du film a une progression très étonnante, un peu comme du jazz, justement. Ça fait des allers-retours, ça tourne en spirale sur des scènes un peu pivots. On n'est pas du tout dans une narration classique de biopic, et Forest Whitaker est merveilleux.
Et le Eastwood d'Eric ?
Un western impitoyable, parce qu'on n'en voit plus beaucoup des westerns, et c'est peut-être un des derniers qui ont été tournés. Et Eastwood là trouve un rôle qui résume un peu toute sa carrière. C'est d'un tueur à la retraite qui est veuf et qui va pour $1,000 aller venger une prostituée qui s'est fait défigurer par deux clients. Et bizarrement, c'est un film féministe, très très beau, très très violent, avec Gene Hackman qui joue un shérif absolument dégueulasse et sadique. Et la morale de Clint Eastwood, c'est une histoire de rédemption, et en même temps c'est très pessimiste, parce que on tue tout le monde et tout ce qui vous reste à faire, c'est de retourner chez soi et de se recueillir sur la tombe de votre femme. Et c'est pas très optimiste, et c'est un western de Clint Eastwood qui est un grand monsieur.
Et puisque vous me posez la question, ça me touche beaucoup d'ailleurs. Et donc moi c'est $1 million baby. Voilà. Alors ce coffret, encore une fois, il faut pouvoir se l'offrir. Je le dis rarement, mais là c'est vrai. C'est chez Warner, mais on peut quand même voir ces films-là séparément, soit en VOD, soit les acquérir.
Il y a des mini coffrets thématiques aussi. Hein.
Ah bon ?
Oui, qui sont sortis effectivement, qui réunissent 3 ou 4 films de Clint Eastwood.
Aussi chez Warner.
Aussi pareil. Chez Warner, qui ont des thématiques communes, les westerns, les polars, oui. Les drames, les mélos.
Il y en a avec 50 films seulement, qui coûtent beaucoup moins cher, j'ai l'impression.
Ah bon, quand même. Allez, vous citez pour finir, mais vraiment pour finir cette émission, pour ceux qui voudraient encore faire un petit cadeau pour le 31, un conseil, Pierre ?
Alors, un bouquin de Patrick Brion, l'encyclopédie du film policier français. C'est absolument magnifique. Patrick Brion, on sait, il a vraiment sauvé quelquefois le cinéma français. Il a renouvelé des auteurs. Et là, il fait un bouquin 888 films. Alors, c'est pas là, il n'est pas un critique. Il se contente surtout de, mais en même temps, on sent très bien ses préférences. Et je voudrais vraiment insister sur l'illustration du livre, qui est magnifique. Les affiches, les photos, c'est superbe. Et c'est vraiment indispensable. Et c'est aux éditions Télémac.
Charlotte.
Eh bien, je remets une couche pour faire plaisir à notre auditeur qui nous a écrit sur Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis, donc aux éditions de La Martinière. Vraiment, parce que si le livre peut paraître classique avec de l'iconographie et des témoignages, il ne l'est pas du tout, en fait. Il y a à la fois des témoignages de gens qui ont croisé la route de Jean-Louis Trintignant, et Trintignant qui y répond, qui y donne comme un écho, même quand les souvenirs ne concordent pas forcément, ponctué par beaucoup de poésie, puisqu'on sait que c'est sa nouvelle vie aujourd'hui. C'est très beau et très émouvant.
Xavier.
L'initiative Écran Rouge, le théâtre des Célestin à Lyon a proposé à des jeunes metteurs en scène sortis de l'école de cinéma de Lyon Ciné Fabrique de réaliser des courts-métrages sur les spectacles qu'on ne verra pas cette année puisque le rideau ne se lève pas. Et donc il y a plusieurs courts-métrages mis en ligne régulièrement sur le site écranrouge.com et vous pouvez découvrir la manière dont de jeunes cinéastes se sont emparés de cette sélection de pièces qui n'aura pas lieu mais dont ils ont fait l'objet, entre guillemets, des courts-métrages inspirés. Donc,
bonne réplique à la crise. Et enfin Eric ?
Le nouveau numéro de Schnock. Qui s'intitule « Il vous en prie » et qui est évidemment consacré à Alain Delon, qui n'a pas été interviewé, mais il y a une très longue interview de son demi-frère où on voit que même sa famille ne sait pas qui est Alain Delon. Et c'est absolument fascinant. Il y a les témoignages de toutes ses partenaires féminines. Nathalie Baye qui le compare au héros de la Chambre verte. L'histoire du tournage de Marco Polo qui ne s'est jamais fait. Et malgré tout ça, Delon reste un mystère et un acteur hors pair et qui...
Et je précise qu'il est toujours disponible dans l'excellente revue Schnock, ce numéro spécial consacré au Père Noël est une ordure, qui pour moi est collector. Voilà, et le numéro et le film. Merci, Xavier. Ça, tu as un petit problème, Xavier ?
Non,
merci,
bien.
Xavier, le RPR. Pierre Murat, chère Charlotte Lipinska et Eric Neuf pour cette émission qui a été, comme chaque semaine, préparée. Présenté par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir au théâtre de l'Alliance Française à la technique il y avait et je les remercie Cédric Chatelus et Charles Bouticourt pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine on parlera de la rentrée littéraire à dimanche prochain sur France Inter évidemment.